Le gouvernement reprend la main sur la réforme de l'assurance chômage. Patronat et syndicats sont ressortis perdants hier après avoir échoué à s'entendre. Risque pour le paritarisme dans le dialogue social, crainte pour les chômeurs, car les milliards d'euros d'économies voulus par l'exécutif impliquent la révision de certains droits.
L'Élysée et le gouvernement réagissent dans le sillage de l'affaire Benalla après les conclusions accablantes des sénateurs sur les dysfonctionnements au plus haut sommet de l'État. L'Élysée durcit les conditions d'attribution de passeports diplomatiques.
Après des scandales au Chili, en Irlande, aux États-Unis, en Allemagne, il faut changer les consciences et les pratiques au sein de l'Église face à la pédophilie. Le pape François se donne 3 jours et demi à partir d'aujourd'hui pour convaincre les représentants du catholicisme de leur responsabilité individuelle face aux agressions sexuelles sur mineurs.
Les conséquences de la crise des gilets jaunes sur Emmanuel Macron, on en parle dans une dizaine de minutes. C'est la question du jour, Catherine. Nous serons en compagnie de Cécile Amar, elle est grand reporter à l'Obs.
L'échec était prévisible, mais il aura certainement de lourdes conséquences pour les 6 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi à la fin de l'année, avec ou sans activité. Patrons et syndicats n'ont pas réussi à s'entendre hier sur la réforme de l'assurance chômage et la manière de lutter contre la précarité. L'exécutif et les organisations de salariés voulaient instaurer un système de bonus-malus pour les entreprises, les obliger à cotiser davantage à l'assurance chômage en cas de recours excessif au contrat court. Solution mortifère pour l'économie, a répliqué le patronat. Faute d'accord donc entre les partenaires sociaux, c'est le gouvernement qui reprend la main sur la réforme. Objectif réalisé entre 3 et 3,9 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Aujourd'hui, on est dans une situation nouvelle où c'est par la loi l'État qui doit reprendre le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire seul, mais l'objectif reste entier. Nous avons besoin d'avancer parce qu'il y a un problème très important qui est la précarité excessive. C'est-à-dire que le recours au travail précaire est devenu très important dans notre pays. Il fragilise la situation de nombreux demandeurs d'emploi. De la même façon, nous avons besoin aussi que le système d'assurance chômage permette d'être incitatif au retour à l'emploi pour les demandeurs d'emploi.
Mais pour continuer de peser sur la réforme de l'assurance chômage, la CFDT, Force ouvrière et le MEDEF demandent une réunion tripartite avec l'État. Les partenaires sociaux se retrouvent malgré tout affaiblis après 3 mois et demi de négociations qui se sont soldées par un échec, un tournant dans le dialogue social, un coup dur pour le paritarisme, Catherine Pétillon.
Syndicats et patronats sont restés sur des positions inconciliables et c'est finalement leur rôle même et leur place qu'ils ont fait vaciller. Car faute d'accord, ce ne sont plus eux, mais le gouvernement qui définira les prochaines règles de l'assurance chômage. Ce dernier prendra ses responsabilités, a déclaré dès hier la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle doit annoncer le calendrier et la méthode dans les prochains jours. C'est là un véritable tournant dans la gestion de l'assurance chômage, souligne Patrick Lébus, négociateur pour l'UDP, membre de la délégation patronale.
C'est le paritarisme qui l'a été touché particulièrement. C'est la reconnaissance de tous ceux qui, pendant des années, ont essayé de trouver des solutions pour éviter que les personnes au chômage se trouvent encore plus en difficulté qu'ils étaient. Je pense que là, la responsabilité ne se situe pas à notre niveau. Nous, on nous a donné une lettre de cadrage qui était compliquée à suivre, mais il ne faut pas nous demander à nous de faire quelque chose qui était impossible de tenir, simplement pour faire plaisir aux uns ou aux autres. On nous demande de faire ce qui nous a été dit des Big Bang. À mon avis, on va plutôt faire l'inverse, c'est plutôt une implosion. Et ça, c'est un problème.
Cet échec ouvre donc une période d'incertitude pour les corps intermédiaires. Marie-Lise Léon de la CFDT.
On assiste avec cet échec de la négociation à un tournant indéniable dans le paritarisme. Mais la CFDT l'a toujours dit, on signera pas d'accord pour sauver le paritarisme. Le dossier n'est pas complètement clos, donc on espère pouvoir encore peser dans le cadre de la tripartite avec le ministère du Travail.
Une discussion à trois que tous réclament, reste à savoir quelle forme elle pourrait prendre. À plus long terme, c'est la viabilité du paritarisme de gestion qui est un peu entamée. Cela pourrait avoir des conséquences sur les autres réformes à venir, comme celle des retraites.
Entre action et réaction après les conclusions accablantes des sénateurs sur les dysfonctionnements majeurs à l'Élysée dans l'affaire Benalla, la commission des lois au Sénat demande par exemple des poursuites contre l'ex-chargé de mission d'Emmanuel Macron et la saisine de la justice sur les déclarations d'autres collaborateurs du président. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, estime que l'on n'est pas complètement dans le respect de la séparation des pouvoirs tel qu'il est prévu dans la Constitution. Et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dénonce lui beaucoup de contre-vérités dans ce rapport sénatorial. On apprend par ailleurs ce matin que les conditions d'attribution de passeports diplomatiques ont été durcies dans le cadre d'une vaste réorganisation de l'Élysée. Action et réaction donc sous la pression de l'affaire Benalla et du Sénat qui a révélé donc hier des dysfonctionnements au plus haut sommet de l'État, Stéphane Robert.
Ce qu'a permis de mettre en évidence cette commission d'enquête sénatoriale, c'est que du fait de sa proximité avec Emmanuel Macron, Alexandre Benalla est devenu un intouchable, quelqu'un qui faisait ce que bon lui semble, et il est apparu que les services de l'État se sont montrés particulièrement complaisants à son égard. Jean-Pierre Sueur est le vice-président de cette commission.
Tout s'est mis à dysfonctionner. Depuis l'Élysée jusqu'au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police, au Quai d'Orsay et même dans les ambassades.
Il n'y a pas véritablement eu de sanctions après l'épisode des manifestants molestés, place de la Contrescarpe le 1er mai. On a même renouvelé le passeport diplomatique d'Alexandre Benalla au mois de juin, alors qu'il était censé ne plus en avoir besoin. Même chose après son licenciement, personne ne s'est empressé de récupérer ses passeports diplomatiques ou de les désactiver, personne ne s'est préoccupé de savoir où se trouvait son téléphone crypté. Et en révélant tous ces dysfonctionnements, le président de la commission, Philippe Bas, estime avoir fait œuvre utile.
Nous ne demandons pas mieux maintenant que de passer à autre chose. Je dois dire qu'à l'heure où je vous parle, je suis convaincu que la sécurité du président de la République est exercée dans les meilleures conditions. Mais notre inquiétude, c'est que du temps de M. Benalla, il y avait des interférences qui pouvaient rendre moins efficace ou altérer la sécurité du président de la République.
Au-delà des sanctions judiciaires qui pourraient découler du rapport d'enquête des sénateurs, la commission a émis un certain nombre de propositions, par exemple un nécessaire renforcement des vérifications administratives lors du recrutement des collaborateurs de l'Élysée. Et tout ça semble embarrasser au plus haut point l'exécutif, en particulier la présidence, qui annonce qu'elle réagira prochainement aux différentes propositions des sénateurs.
L'homme soupçonné d'avoir proféré des injures à caractère antisémite contre l'académicien Alain Finkielkraut, c'était samedi en marche d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris. Cet homme a vu sa garde à vue prolongée hier soir à Mulhouse. Une source proche du dossier le décrit comme un petit délinquant proche de la mouvance salafiste mais pas fiché pour radicalisation. Et lui veut tracer de nouvelles lignes rouges contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron a annoncé hier soir, lors du dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des organisations juives de France, vouloir lutter contre la haine anti-juive sur Internet ou dans les écoles publiques. Reportage à suivre dans le journal de 7h30.
Il est 7h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Face aux victimes de la pédophilie qui réclament un électrochoc dans l'Église, le pape François ouvre un sommet au Vatican aujourd'hui sur la protection des mineurs.
Tous les présidents de conférences épiscopales du monde, 75 responsables, sont appelés à réfléchir sur la manière de lutter contre les abus sexuels dans l'Église. 3 jours et demi de travail au Vatican pour une institution fragilisée par les scandales en cascade. Le reportage de Mathilde Imberti à Rome.
Le Vatican entame ce sommet très préparé. L'équipe de communication vient de changer, elle a été élargie et le pape François a rappelé près de lui le très professionnel Federico Lombardi. Ancien directeur de la salle de presse jésuite, il assurera la modération des débats qu'il juge cruciaux pour l'Église.
Les faits qui ont été cachés par le passé, nous les payons extrêmement cher. Et ceci nous encourage à être plus courageux et décidés. Il y aura toujours des résistances, mais nous cheminons dans la bonne direction.
Que peut-on attendre de ce sommet ? Les victimes réclament le renvoi immédiat des agresseurs et de leurs protecteurs, que cette règle soit inscrite clairement dans les normes qui régissent l'Église. Le pape sera jugé sur ses engagements concrets, pense aussi le vaticaniste Luis Badilla, animateur du blog de référence au Vatican Il Sismografo.
Je demande au pape des normes et des contenus pour me convaincre que l'Église améliore la qualité de ses réponses. Elle travaille depuis 15 ans sur la pédophilie. Nous scruterons ce sommet pour savoir si ce pontificat a atteint ses objectifs.
Le sommet débute ce matin par des témoignages de victimes d'abus en vidéo avant les groupes de travail. Le pape clôturera les travaux dimanche par un discours qui devrait faire date.
Mais déjà au Chili, pays où 148 enquêtes judiciaires sont ouvertes pour des affaires de pédophilie commises par des prêtres, les victimes chiliennes n'attendent pas grand-chose de ce sommet. Le reportage à Santiago de Justine Fontaine.
Ce n'est pas le président de la conférence épiscopale du Chili qui représentera son pays au sommet cette semaine, car Santiago Silva, c'est son nom, est soupçonné par la justice d'avoir couvert les agissements de prêtres pédophiles. C'est donc l'évêque Fernando Ramos qui va le remplacer.
Le président souhaitait que l'attention soit focalisée sur l'importance de ce sommet et non sur d'autres éléments le concernant qui auraient pu détourner l'attention.
L'an dernier, le pape a envoyé des émissaires spéciaux enquêter au Chili, puis il a convoqué tous les évêques chiliens à Rome qui ont démissionné en bloc. Aujourd'hui, ils assurent que les choses ont avancé, Mais pour Constanza Acuña, qui travaille à la conférence épiscopale et qui a été agressée sexuellement par un prêtre pendant son adolescence, certains évêques n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur du problème.
Même si on a été très dur contre l'Église catholique, notre lutte n'est pas contre l'Église, mais contre l'abus sexuel. Il y a des mécanismes dans l'Église catholique qui permettent et qui facilitent parfois la commission des abus sexuels.
Selon les victimes, l'Église doit absolument faire évoluer les structures de pouvoir à l'intérieur de l'institution. José Andrés Murillo a été agressé sexuellement dans les années 90 par un célèbre prêtre qui a été exclu du clergé l'an dernier.
Même si on a été très dur contre l'Église catholique, notre lutte c'est contre l'abus sexuel. Et il y a des mécanismes dans l'Église catholique qui permettent, même facilitent parfois, la commission des abus sexuels.
Et sur ce point, il estime que presque rien n'a encore été fait au sein de l'Église.
Justine Fontaine au Chili pour France Culture. Donald Trump s'est opposé hier au retour aux États-Unis d'une femme qui avait rejoint le groupe État islamique en Syrie. La Maison-Blanche affirme qu'elle n'est pas américaine, ce que son avocat dément. Quel rapport entre les terroristes islamistes et la manif pour tous? Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, ose le parallèle entre les deux idéologies dans un entretien à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Des propos qui irritent notamment à droite Rosalie Lafarge.
Les propos de Marlène Schiappa ont d'abord fait bondir les journalistes. Ils le reconnaissent dès l'introduction de leur article et soulignent d'emblée le continent qui sépare Valeurs Actuelles de la ministre. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que ces quelques mots enflamment la toile, mais pour Marlène Schiappa, ils sont, comme trop souvent, instrumentalisés et sortis de leur contexte.
Je ne mets pas au même niveau la manif pour tous et les terroristes islamistes, bien évidemment. Et ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dénoncer une convergence idéologique de vues qui sont aujourd'hui les ennemis des droits des femmes et des personnes LGBT, et bien ces deux mouvances-là. Et on a tous les professionnels de l'indignation sur Twitter qui sont sortis, qui sont ravis de pouvoir là prendre trois mots et de les accoler. Mais à aucun moment je n'ai dit évidemment que la manif pour tous était des terroristes.
Rien causer le parallèle, même sans les mettre sur le même plan, c'est déjà aller beaucoup trop loin pour Valérie Boyer, secrétaire générale adjointe chez Les Républicains.
Je suis concernée par la vulgarité de ces propos et l'amalgame nauséabond qu'ils font. Madame Schiappa doit mal supporter que des personnes aient une autre conception qu'elle de la filiation. Et on a une ministre qui a des propos qui sont totalement inconsidérés. J'espère que ça aura des conséquences parce que c'est très très grave d'injurier une partie des Français comme ça et surtout de minimiser la barbarie.
Mais en diabolisant peut-être le mouvement, la ministre n'est-elle pas en train d'appuyer volontairement sur la fracture qui existe à droite entre pro et anti-manif pour tous? La question à moins de 100 jours des élections européennes peut sans doute être posée.
Le temps de ce jeudi 21 février, gris ce matin, plus ensoleillé cet après-midi. Au meilleur de la journée, il fera 14 degrés à Marseille, 15 à Lille, 16 à Paris et à Nancy, 18 à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Bègles, Guillaume Herner.
Merci beaucoup Catherine Dutu.